Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien.
Allez-y.
J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Mais putain, grâce à sortir,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette.
La culture. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez. Sortez, c'est cool.
Sortez les gens parce que
dans les gardes, vous voulez sortir.
Au chien bleu,
chez
Veto. Veuillez
sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours Lola et je suis avec Elio.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Solène Berger de l'association Cinéoff. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours ?
Oui, alors je m'appelle Solène Berger, je travaille depuis, ça va faire 12 ans bientôt cette année que je travaille à Cinéoff, qui est une association qui est basée à Tours. Hein. Et qui a 43 ans, c'est une association voilà, qu'on a fêté les 40 ans il y a quelques années maintenant, et qui est un réseau de salles fixes et un circuit de cinéma itinérant en milieu rural. Même si on est basé à Tours, on centralise tout à Tours, on se déplace principalement en milieu rural. Et pour mon parcours, moi j'ai fait après le bac, j'ai bifurqué dans une licence d'histoire et puis j'ai arrêté pour aller en licence de cinéma. Ensuite j'ai fait un master dans l'éducation à l'image, des stages de fin d'études à Cyclic, qui est l'agence de cinéma de la région centre. Un service civique, tout comme vous, il y a plusieurs années maintenant, sur un circuit de cinéma itinérant, et qui m'a permis après de pouvoir postuler dans un autre circuit de cinéma itinérant, Cinéoff, il y a 12 ans, c'était en 2014, et je ne suis pas partie. Et au départ, j'étais chargée d'animation et projectionniste. Et suite au départ en retraite de ma directrice, il y a 4 ans, j'ai fait une formation à la FEMIS pour prendre sa place et prendre la place de directrice programmatrice de l'association. Ouais.
D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes venue ici pour nous parler de Cinéoff. Est-ce que... vous pouvez présenter un peu plus en détail ce qu'est Cinéoff.
Donc voilà, c'est avant tout promouvoir le cinéma en milieu rural, apporter en tout cas le cinéma là où il n'est pas forcément. Donc au départ, en tout cas, il y a 43 ans, Jean-Claude Joulin, qui est le fondateur de Cinéoff, a créé un circuit de cinéma itinérant. Donc il allait avec sa petite camionnette mettre un projecteur dans des salles des fêtes. Hein. Il y a plusieurs décennies, il y avait énormément de cinéma en France. Et puis, à un moment donné, dans les années 80, il y en a eu de moins en moins. Et il y a eu une désertion des salles de cinéma. Donc, lui, il se désespérait de ça. Et il a recréé des points. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, en France, qu'on voit qu'il y a l'émergence de plein de circuits de cinéma itinérants. Donc, on n'était pas les seuls. Et d'un circuit de cinéma itinérant, ensuite, il y a eu des conventions avec des mairies qui avaient des salles de cinéma, mais qui ne pouvaient pas s'en occuper eux-mêmes. Donc, on passe des conventions avec certaines mairies, je pense à celle de Langeais, par exemple, où on conventionne pour exploiter leur cinéma, pour programmer, animer avec l'asso de bénévoles locales le cinéma.
Merci beaucoup. Est-ce que vous savez combien de personnes font tourner ce réseau ?
Alors, on est 12 salariés à Cinéoff, à peu près 10 équivalents temps plein. Et puis après, en termes de bénévoles, alors ça fluctue selon les salles, mais on compte à peu près 300 bénévoles, sachant qu'il y a des lieux où il y a vraiment d'autres assos de bénévoles. Je pense à Sainte-Maure, où il y a une asso qui s'appelle le Foyer des Jeunes. À Langeais, il y a l'association Langeais Club, qui eux aussi fédèrent des bénévoles pour soutenir l'activité du cinéma dans leur commune.
Merci. Et combien de salles de diffusion est-ce que vous avez dans le réseau ?
Alors, on a 12 salles fixes, dont 6 salles vraiment en milieu rural, parce qu'après, on a des salles en périphérie de Tours, on projette. Et puis, sur le circuit itinérant, on a 23, un peu plus, même avec les scolaires. Enfin, on a eu 25 points de projection réguliers.
Merci beaucoup. Vous êtes présent uniquement en Indre-et-Loire ?
Principalement, mais pas que. On a une salle en Sarthe, on a une salle dans l'Indre, et on va même dans l'Eure-et-Loire. Et puis quand on fait les plein air l'été, parce qu'on a une grosse activité plein air l'été, là on rayonne à 2 heures de route de Tours maximum.
Merci. Et comment vous choisissez les films que vous diffusez ?
Très bonne question. alors c'est à la fois... arbitraire selon les sorties. On est catalogué généraliste, donc ça veut dire qu'on passe un peu de tout. Et on est généraliste, mais on est aussi classé art et essai. Donc on promeut aussi du cinéma d'auteur, cinéma un peu des quatre coins du monde. Essayer d'ouvrir aussi vers d'autres cinématographies. Donc là, par exemple, on a passé aussi bien Avatar ou Chasse gardée que Le Chant des forêts ou L'Englouti, un premier film français. Donc l'idée, c'est d'avoir un panel de tout ce qui sort, même si avec le nombre de séances qu'on fait dans chaque salle, on ne peut pas tout passer. Donc des fois, c'est des choix, il faut renoncer. Des fois, on fait des paris, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais on teste des choses. Et puis il en faut en tout cas pour tout le monde, aussi bien la personne qui va avoir un ou deux films par an que quelqu'un, un cinéphile qui va avoir tout quoi.
Et est-ce qu'il y a un public cible pour vos projections?
Selon le film, le public est différent. On a un gros travail aussi en direction du jeune public, donc là, public familial et la première séance, généralement des enfants, elles passent par là. Donc on a des programmations spéciales pour eux qu'on cible vraiment. Ne serait-ce aussi pour le renouvellement des publics aussi, pour que le cinéma y perdure aussi dans le temps. Et puis on voit que le public cible, on va dire, c'est un public d'actifs qui a un peu plus de 50 ans, on a du mal en tout cas à toucher les 25-40 ans pour plusieurs raisons, mais ils sont pas forcément sur le territoire, ils ont pas forcément le temps, mais en tout cas on les oublie pas et on propose quand même des choses pour eux.
Merci. Et est-ce que vous avez quels sont vos tarifs?
Alors, on a deux tarifications différentes aussi dans les salles, des salles qu'on dit fixes, c'est-à-dire une vraie salle de cinéma, quoi, c'est des mono-écrans. Donc là, dans ces lieux-là, le plein tarif est à 7,50 et tarif réduit pour les personnes en situation de handicap, les étudiants, les moins de 26 ans, à 6,50. Et dans certains lieux aussi, on a mis en place des cartes rechargeables qui permettent de payer encore moins cher. Et sur le circuit itinérant, là, le plein tarif est à 6,50 et le tarif réduit à 6 euros. Donc on est beaucoup moins cher que les multiplex.
Merci beaucoup, Elio.
Okay. Alors... dans une partie un peu plus éducative, vous participez à Ma Classe au cinéma, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Alors, faut savoir, en France, on a une chance assez énorme de ces dispositifs-là d'éducation à l'image. Ça permet à plein d'enfants de pouvoir aller au cinéma ou de découvrir en tout cas un cinéma qu'ils ne pourraient pas découvrir forcément chez eux. Et donc nous, on participe principalement à école et cinéma parce qu'après, on a beaucoup moins de collèges et de lycées forcément en milieu rural dans notre réseau. Mais c'est dispositif, école et cinéma c'est 94, collège c'est 1989. Et là, il y a un ministre de la... Enfin, il y a le ministre de la Culture, mais surtout le président du CNC qui s'appelle Gaëtan Bruel, qui a été élu il y a quelques mois maintenant. Le ministre aussi d'Éducation, Édouard Geffray, qui ont sorti un rapport qui s'appelle le rapport Geffray, qui voudrait encore permettre à encore plus d'enfants de bénéficier de ces dispositifs-là. Donc on va voir les mesures aussi qui vont sortir, mais en tout cas, on trouve qu'il y a quand même de l'espoir là-dedans, puisque ça permet encore une fois à plein d'enfants de pouvoir découvrir le cinéma. Donc le dispositif, c'est 3 films dans l'année qui sont sélectionnés par des coordinations. Il y a une coordination par département pour école et cinéma. Collège aussi c'est départemental et puis lycée c'est régional. Donc là par exemple pour l'Indre-et-Loire, école et cinéma c'est les studios, le cinéma studio qui coordonne le dispositif et ensuite les cinémas décident d'accueillir ou non le dispositif. Donc c'est un comité composé d'exploitants, de profs, de professionnels de l'enfance qui choisissent les films parmi un catalogue et ensuite les enseignants qui acceptent de participer s'engagent à aller voir 3 films dans l'année avec leur classe. Donc là, au deuxième trimestre, par exemple, et à chaque fois, avec des films par cycle aussi d'âge. C'est vraiment ciblé aussi pour chaque cycle. Donc là, par exemple, on passe Le Petit Fugitif. Un film américain des années 50 pour le cycle 3. Et chaque film est, en tout cas, on essaye de l'accompagner, pas forcément avec une animation derrière, mais en tout cas une présentation, un accueil spécifique. Ce qui fait que dans nos territoires, c'est un peu plus compliqué, sachant que nous, à Cineoff, on a une chargée d'animation, mais tous les projectionnistes ne sont pas à l'aise, et ça se comprend, pour parler devant le public. Donc, on a quand même essayé de mettre en place des choses pour que le film soit quand même présenté. Donc, on a fait des vidéos, en fait, pour quand même que le film soit présenté. Et heureusement qu'on a ça, il y a des enfants, je pense vraiment, c'est la première fois qu'ils rentrent dans une salle de cinéma, c'est grâce à ces dispositifs-là. Hein, et ils peuvent découvrir des films, encore une fois, c'est un autre rapport à la salle, un autre rapport aux écrans aussi. C'est un écran de cinéma, quoi. C'est pas un écran domestique. Ouais. Donc
il y a une importance aussi à ce que ce dispositif il se passe dans une vraie salle de cinéma et pas dans la salle de cours, quoi.
Complètement. Ouais. Il y a le rituel déjà de la sortie, déjà. Ouais. Et puis même si c'est sur un circuit itinérant. Enfin, la salle, elle est plongée dans le noir. Il y a le faisceau lumineux. C'est pas une projection télé. Il y a vraiment le projecteur qui projette une lumière sur l'écran. Ouais. Donc, on rappelle tout ça aux enfants avant la séance. Il y a ce côté magique de la projection de cinéma et puis d'être ensemble, et d'être ensemble avec peut-être d'autres classes, d'autres écoles. Ce qui fait la richesse de la salle de cinéma, de pas forcément connaître son voisin et d'être dans cette sociabilisation aussi. La salle de cinéma, elle est aussi faite pour ça. Et je trouve que c'est plein de valeurs à défendre et c'est des dispositifs. En tout cas, nous, on va batailler pour qu'ils perdurent. Faut savoir que le prix de la place, pour ces dispositifs-là, c'est 2,70€ par élève. Donc, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à le coût de nos infrastructures. Donc, c'est un vrai acte aussi militant. On est soutenu aussi par les pouvoirs publics pour le faire, évidemment, mais c'est il faut garder ça en tête que nous aussi, enfin je parle pour moi, mais en tout cas j'ai pu découvrir des films et découvrir aussi une salle que sont les studios grâce à ces dispositifs là donc ouais. Voilà.
Et donc certains films peuvent être accompagnés de médiations ou d'ateliers sur le cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à des classes d'élèves comme atelier sur le cinéma, du coup ?
Alors, principalement, nous, les ateliers, elles se font hors temps scolaire.
Okay.
Mais ça peut nous arriver de faire des ateliers sur le temps scolaire, mais c'est principalement hors temps scolaire. Et Marie, qui est chargée d'animation à Cineoff, peut proposer des ateliers de réalisation de films sur des temps des fois très courts, des initiations par exemple au cinéma d'animation, ou des initiations, là on va faire de la lanterne magique, donc voir aussi comment ça se passait avant l'arrivée du cinéma. Mais nous on est plutôt sur par rapport à notre programmation générale, et du coup on essaie d'accompagner ces films-là en particulier sur le temps scolaire. Quand on a des demandes, on peut y répondre, mais c'est pas notre créneau principal, en tout cas. Il y a d'autres associations qui le font. Et puis c'est principalement par manque de temps. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est plutôt le temps.
Sur la partie éducative, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu souhaitais ajouter ?
C'est en tout cas nous vraiment faut garder ça en tête qu'on a une chance énorme de ces dispositifs là que tous les élèves ne sont pas concernés malheureusement. C'est un vrai enjeu du ministre Édouard Geffray de doubler, alors je sais pas comment il va faire vraiment, mais de passer de 2 à 4 millions d'élèves touchés, c'est impressionnant. Donc forcément ça va peut-être aller dans des circuits d'exploitation peut-être un peu plus commercial que nous, mais qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais voilà, en tout cas, c'est une vraie envie du ministre que plus d'élèves aillent dans les salles de cinéma, parce que par rapport aux écrans domestiques où les enfants sont livrés un peu à eux-mêmes sur ces écrans-là, donc il y a toute une pédagogie aussi à faire. Et montrer que ces écrans-là, en fait, pas d'écran avant 6 ans, c'est un vrai... on le voit même au cinéma, en termes de concentration, il y a une concentration qui se fait beaucoup moins bien qu'avant. Même si là, quand ils sont dans la salle de cinéma et quand le film est bien accompagné et bien présenté par les enseignants, généralement, ça passe bien, en fait. Ouais. Après, ils peuvent ne pas aimer, évidemment, mais par contre, ils sont sages et ils se... Donc, c'est vraiment... Je pense qu'il y a un truc de pédagogie et de transmission là-dedans qui est très important, d'où l'importance aussi de former les profs à ça. Ça aussi, c'est dans le rapport Geffray, de permettre aussi des temps d'apprentissage pour les profs, parce que pareil, on est sur une génération de profs qui n'a pas forcément bénéficié de ces dispositifs-là, et du coup, qui ne comprennent pas la plus-value d'emmener les enfants au cinéma, ou qui disent je pourrais leur montrer ça dans ma salle de cours, mais c'est clairement pas le même impact.
Ouais. c'est pas la même expérience.
Non, non, pas du tout. Puis après, ouais, l'idée de pouvoir revenir... En... Alors peut-être que dans l'eau, d'ailleurs, il y en aura certains qui prendront goût au cinéma et qui voudront revenir au cinéma. En fait, ouais. C'est le but aussi. Et, ou en tout cas, ils auront vu un film qu'ils n'auraient jamais vu ailleurs. Donc, bon.
Okay. Merci pour cette présentation. On va faire une première pause musicale sur le 99.5 FM. On écoute tout de suite Earth to Earth de Mac DeMarco.
Earth to Earth de Mac DeMarco sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Vous êtes toujours dans l'émission Sortez et je rappelle que nous sommes en compagnie de Solène Berger, venue nous parler de l'association Cinéoff. Donc on va parler maintenant de quelque chose d'autre que vous proposez, c'est le cinéma en plein air.
Ouais.
Donc en Indre-et-Loire et parfois un peu plus loin, mais Cinéoff propose des événements qui sont assez... assez magique, assez particulier, les séances en plein air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment c'est mis en place et comment vous, Cinéoff, vous veillez au bon déroulement de ces séances?
Alors j'ai un collègue qui s'appelle Eric Aubert qui coordonne voilà, toute la saison de cinéma plein air. Donc lui, son rôle, c'est à la fois de contractualiser avec les communes. On travaille ensemble, évidemment, mais il va établir le calendrier des séances avec les collectivités, les communes ou des communautés de communes. Donc voilà, on a un calendrier qui s'étale à peu près de mai à septembre. Donc c'est assez... Voilà, c'est important, sachant qu'on peut faire deux projections par soir, voire trois vraiment, si jamais il n'y a pas possibilité pour la commune de... Mais deux, c'est bien. Trois, ça commence à faire... Parce que, sachant que pour chaque séance, il faut mettre deux projectionnistes, donc forcément... Et sachant qu'en parallèle, les autres projections, elles continuent au mois de juillet. Donc, il y a les congés, il y a tout ça. Donc, je vous laisse imaginer le casse-tête au niveau des plannings. En tout cas, lui et Eric, il rencontre les communes. Généralement, il y a des communes, d'année en année, ça se reconduit. Donc, c'est juste calé sur le planning. Il va faire des repérages aussi pour savoir, même dans les nouvelles communes qui souhaitent faire des plein air, savoir le lieu le plus propice, savoir... Bon, après le film, ça c'est autre chose, mais savoir si techniquement c'est possible en fait de faire une séance là-bas au niveau électrique. Quel écran ils vont mettre, quel est leur projet aussi derrière. Si le devis est trop cher pour eux, du coup les aiguiller aussi à faire avoir une buvette peut-être pour prendre en charge le coût de la facture, essayer de créer des partenariats aussi sur le plan local. Il est conseil en tout cas à tout ça, Eric. Et puis ensuite, vient la programmation. Et là, pour la programmation, pareil, on est conseil, on fait un catalogue tous les ans où on va en préambule demander au distributeur combien coûte le tarif pour projeter le film. Et puis comme ça, on peut conseiller, savoir, on met dans notre catalogue, on classe ça par genre de film. Donc voilà, on a les comédies, les films d'aventure, les drames, et comme ça, les communes choisissent. Et puis de mai, juin à septembre, toute la saison plein air, ce qui fait à peu près 70 dates sur la saison, donc c'est assez important. Et on essaie de se concentrer néanmoins sur l'Indre-et-Loire pour pas non plus... parce que c'est notre... Et puis il y en a d'autres dans d'autres territoires, il y a d'autres structures qui font de même, donc l'idée c'est pas d'aller chercher le plus loin. Et puis nous, techniquement et humainement, de toute façon, on pourrait pas faire 120 dates, c'est pas possible. Donc le corps, ça serait compliqué. Et puis même au niveau de l'organisme, nous l'idée c'est... pour les plein air, avant on en faisait une cinquantaine, maintenant à peu près 70. C'est aussi pour équilibrer le budget de notre association. C'est devenu vital d'en faire 70. On ne pourrait pas en faire moins. On ne va pas non plus en faire 120. On n'est pas non plus une entreprise. L'idée, c'est qu'on fasse bien quand même notre travail, donc qu'on soit soutenu aussi par les pouvoirs publics pour bien le faire. Mais on ne va pas non plus... ou alors, il faudrait qu'on embauche plus pour pouvoir répondre à... Parce que la demande, elle est là. Hein. Par contre, on refuse certaines dates parce qu'on ne peut pas répondre à tout.
Est-ce que ces séances en plein air, elles doivent se passer impérativement le jour ou la nuit? Est-ce qu'il y a
elles doivent se passer la nuit, du coup. Parce que nous, contrairement à des prestataires audiovisuels, on est dans de la projection, donc il faut vraiment faire le noir total, comme dans une salle de cinéma, en fait. Ouais. C'est le même matériel qu'on utilise d'ailleurs dans les deux cas. Plus on est en début de saison, plus les projections démarrent tard. Ouais. Puis plus on avance, plus ça va. En septembre, c'est à 20h30, mais en juillet, on est plus de l'ordre de 22h, 22h30. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens aussi, aux organisateurs, de ne pas forcément prendre des films trop longs. On leur dit aussi des fois de créer, surtout en début de saison, une petite animation avant. Ça peut être chouette. Comme ça, les gens, ils viennent pique-niquer, mais en attendant le film, il y a autre chose. C'est toujours. Moi, j'adore les plein air, c'est chouette. Pareil, on est sur un public qui. Il y a à la fois les familles, les gens qui. Des fois, vu qu'on fait une petite gazette de toutes nos dates, il y a des gens qui partent pas forcément en vacances, mais du coup, ils vont voir plusieurs dates sur le département. Enfin, je trouve ça chouette, et puis on se retrouve. Et puis, pour mes collègues, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on fait. Enfin, un métier de projectionniste est plutôt un métier solitaire, du coup. Et là, l'été, avec les plein air, ils partent à deux. Donc, il y a ce côté aussi un peu plus, encore plus équipe qu'on l'est d'habitude. Et donc, ça, c'est chouette. Même si c'est physique, et je remercie encore tous mes collègues pour cet engagement-là, parce que je l'ai fait pendant, j'en fais beaucoup moins, mais je l'ai fait pendant plusieurs années de faire des saisons plein air. Et je sais que c'est physique et que faut avoir de la bonne condition physique pour le faire, en tout cas aussi sur la durée, quoi.
Ok. Et comment on transporte un cinéma dans un village qu'on n'a pas? C'est quoi le matériel qu'il faut pour les cinémas en plein air?
Alors, c'est à peu près le même que pour des séances à l'année, hormis l'écran. Donc voilà, en fait, le truc en plus par rapport à l'année, c'est l'écran. Et sinon, pour la partie projection, nous, on a un matériel qui a été conçu pour les circuits itinérants il y a 13-14 ans, quand le cinéma est passé au numérique. Okay. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de matériel conçu pour les circuits de cinéma itinérants, donc on était voués un peu à disparaître. Et il y a un collectif d'abord qui s'est monté, et après en association qui s'appelle l'Association nationale des cinémas itinérants. Et eux, ils ont démarché les intégrateurs, les fournisseurs pour créer un prototype. Et c'est ce qu'on utilise encore actuellement, c'est des NEC, c'est la marque NEC, et c'est des projecteurs mobiles qui, donc on a des racks sur roulettes avec le projecteur dedans, et on change avec des objectifs amovibles pour, parce que selon la distance qu'on a par rapport à l'écran, c'est pas les mêmes objectifs, et à côté, on a un rack, ce qu'on appelle un rack accessoire, où on a le convertisseur de son, tout l'attirail en tout cas pour ça, et relié à un ordinateur dans lequel, parce que dans le projecteur il y a aussi un serveur.
Ouais.
Alors que dans les salles où la cabine est un peu plus imposante, même si là ça a un peu changé ces dernières années, mais avant en tout cas le serveur était dissocié du projecteur. Nous, pour que ça soit encore plus simple, le serveur est intégré au projecteur. Et du coup, dans ce serveur-là, c'est des disques durs, comme dans un ordinateur, pour schématiser, monté en RAID. Et du coup, dedans, on a tous les contenus qu'on va diffuser. Et on va les transférer dedans avant, évidemment. Okay. On les reçoit sous forme de disque dur, ou dématérialisés. C'est les films. Et ensuite, on peut projeter le film. Et dans le camion, évidemment, on a aussi les deux enceintes, les pieds, pour bien projeter le son. Enfin, on a tout le matériel nécessaire pour une projection, mais heureusement que la plupart des choses sont roulettes. Nous, on a des camions avec un haillon, donc on essaie de porter le moins de choses possible pour éviter de s'esquinter le dos.
Et donc les écrans, c'est vous qui les apportez
aussi ? C'est nous aussi, on a plusieurs types d'écrans. On a un écran 8 mètres, un écran 10 mètres, qui sont des écrans gonflables avec une ventilation dessus qu'on met dans... Et il y a des écrans qu'on a depuis plusieurs années, mais c'est toujours les... Et on a un écran aussi avec une structure métallique pour les endroits où on ne peut pas gonfler un écran. Ouais. On a fait par exemple... on fait une fois par an à Fondette un ciné-piscine, par exemple dans la piscine on peut pas mettre cet écran là, donc on a un écran métallique pour un écran à cadre alu pour projeter.
Ok. Quels sont les... Alors on souhaite pas du tout qu'il y ait des problèmes qui se passent, mais quels sont les problèmes un peu récurrents dans les ciné plein air qui pourraient arriver?
Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a du vent et du coup qu'on passe le film à essayer que l'écran, même s'il y a des cordages quand il y a plus de 30 ou 30 km/h, l'écran il peut commencer à un peu pencher. Moi, je me souviens de séances, alors c'est très rare, c'est pour ça que je m'en souviens, mais où on passe parce que le film est quand même lancé et le vent arrive à un certain... il faut savoir qu'en été, on devient des experts météo, avoir plein d'applications météo et à essayer de rétablir l'écran pour pas qu'il se torde non plus trop, qu'il s'abîme de trop. Et donc ça, le vent, c'est on a eu aussi... des gens qui débranchent sans faire exprès pour recharger un portable dans les quartiers de la ville de Tours, ça nous est arrivé une fois je sais plus si c'était je crois que c'était à la fin du film heureusement, mais on voit l'écran qui commence à il y a un truc qui va pas là. ça se passe relativement bien. En fait quand ça se passe pas bien, du coup on s'en rappelle parce que c'est tellement rare que Et il peut y avoir des soucis techniques, mais généralement, ils sont, par exemple, avec un collègue, on part, c'était la première date de saison de cette année-là. On part assez loin, d'ailleurs, 1h15, 1h30 de route. Et pourtant, on check tout dans le camion. Et arrivé là-bas, en fait, on n'a pas pris la ventilation pour gonfler l'écran, par exemple. Donc, on appelle un bénévole, on a fait moite-moite au niveau de la route, parce qu'on était quand même assez loin. Ça peut arriver.
Si la plupart du temps ça se passe bien.
Non, ça se passe bien, ouais.
Et combien de temps à peu près ça prend l'installation de l'écran et du projecteur avant le film ?
Pour le plein air, ouais. Là, l'écran, il faut bien compter 3 quarts d'heure juste pour l'écran. On va dire qu'une heure et demie à 2 heures vraiment d'installation pour être bien. Après, ça dépend des endroits. Les endroits qu'on connaît bien, puis s'il n'y a pas de, par exemple, ouais, de difficulté à monter l'écran, parce que des fois on peut, des fois c'est beaucoup plus galère, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a du vent et puis du coup faut replanter les piquets, il y a un truc qui marche pas quoi, l'écran des fois ça peut être un peu agaçant parce que l'écran il se lève pas, enfin ouais. ça prend du temps, donc généralement c'est ce temps-là, mais ça peut être plus long et si on a des soucis. Ouais.
Okay. Et juste pour terminer, du coup, sur la partie projection, hein, un petit peu insolite, je sais pas si ça se dirait comme ça, mais vous proposez aussi des projections pour des collectivités sur mesure, plus ou moins, comme le ciné-piscine, peut-être, dont tu as parlé juste avant. Quel type de projection aussi vous pouvez proposer et comment ça se passe un peu pour organiser ça avec les collectivités?
Bah là, oui, ciné-piscine, là, on a été j'ai un collègue qui fait un repérage cet après-midi, d'ailleurs, à la piscine d'Avoine. Je ne sais pas si ça se fera, d'ailleurs. Je dis déjà qu'on a été contacté par la piscine d'Avoine, alors qu'il n'y a rien qui est signé, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, on a été contacté et on va voir si on peut le faire aussi, si techniquement c'est faisable, qu'on est source, encore une fois, de conseils. Et l'idée, ce n'est pas de faire absolument le truc si on voit que ce n'est pas faisable techniquement ou que le spectateur il sera dans une position inconfortable. Enfin, l'idée, voilà, c'est vraiment si on, parce qu'après, encore une fois, là, on fait des repérages, mais c'est pas forcément être les mêmes collègues qui vont faire la projection. Si c'est pour les envoyer au casse-pif, ça sert à rien non plus. Donc, voilà. En tout cas, les ciné-piscines, on en a fait quelques-uns et ça fonctionne bien en tout cas, tout est réuni pour ça. Bah, en plein air, une fois, on a fait une projection en forêt aussi. Ça, c'est chouette. Et puis, sinon, c'est des fois, ça nous est arrivé à Tours, par exemple, on a fait plusieurs années le festival italien. Oui. Donc on mettait un projecteur à la salle Télém et ça c'était chouette, mais vu que le festival s'est arrêté, voilà, on le fait plus. Mais en tout cas, quand on peut répondre, voilà, après c'est le temps encore une fois qui manque des fois pour bien répondre ou pour répondre positivement, voilà, aux gens. Mais généralement, on nous contacte plus pour des séances plein air. Et après, si encore une fois, on a ouvert, on a ouvert un point l'année dernière dans une petite commune au nord de l'Indre-et-Loire qui s'appelle Chemillée sur Dème. Donc pareil, on les a accompagnés pas à pas pour pouvoir faire du cinéma là-bas dans cette petite commune. Donc voilà.
Okay. Et on en sait déjà plus sur la saison de ciné plein air de Ciné Off. On va faire une seconde pause musicale sur Radio Campus Tours. On écoute tout de suite Je suis pas beau de Sam Sauvage.
Maman m'a dit que j'étais spécial, que j'étais le plus beau de l'école. Alors j'ai cru ma belle étoile, mais quand derrière moi ça rigole. La vérité s'est faite brutale quand j'ai adressé la parole à cette fille qui me dressait les poils. J'ai compris que j'avais pas eu de bol à la loterie génétique. Oh non, c'est que des mathématiques qui font de toi le plus petit, le plus grand, le plus débile, le plus fort, le plus minci. Mais moi je sais que je suis pas beau. Je suis pas beau. T'as beau me le dire, c'est que c'est faux. Et si tu crois que ça me fait défaut, tu devrais venir voir à quel point ça m'avantage. Faire pas ton bon miroir. Moi je sais que je suis pas beau. C'est vrai qu'avant je le vivais mal. Maman disait que c'était normal, que ça s'arrangerait avec l'âge. Mais j'ai lu sur son visage un joli paquet de mensonges que les beaux mecs me disent au fond pour se faire une bonne action, passant pour des gars profonds. Que les meufs qui retiennent pas mon nom me disent en pleurant les bouffons. Oh gueule, quand je mets tête de con, moi je me suis fait une raison. À la loterie génétique, c'est que des mathématiques qui font de toi le plus petit, le plus grand, le plus débile, le plus fort, le plus minci. Mais moi je sais que je suis pas beau. T'as beau me le dire, c'est que c'est faux. Et si tu crois que ça me fait défaut, tu devrais venir voir à quel point pense à m'avantage. J'perds pas le temps devant le miroir. Moi je sais que je suis pas beau. C'est comme ça, ce monde est fou, comme au cinéma. Faudra s'y faire, mais tu verras qu'à ta manière, on t'aimera.
C'était Je suis pas beau de Sam Sauvage sur Radio Campus Tours. Vous êtes toujours dans l'émission Sortez. Et nous recevons aujourd'hui Solène Berger, venue nous parler de Cinéoff et de tout ce qu'il propose. Donc on va faire un focus sur les événements qui vont arriver bientôt à Cinéoff. Alors en ce moment même du 3 au 8 février, vous pouvez découvrir un film cinéculte. Quel est le film à l'affiche et qu'est-ce que c'est cinéculte ?
Alors le film, je vais pouvoir te le dire, pas de nom du réel sans mes petites notes, c'est Les Chevaux de Feu que je n'ai pas vu. Parce que je ne vois pas tous les films, spoiler, ouais, un programmateur est censé voir tous les films, mais celui-là je fais confiance sur. Et ce que Cinécul, c'est un dispositif qui est mis en place par l'Association des cinémas du centre. On est adhérent à cette association-là. Et ça permet, sur des animations, de mutualiser en fait les moyens, parce qu'il y a une bonne quarantaine de salles qui sont adhérentes à la CC. Et du coup, tous les ans, il y a une réunion. C'est Marie qui participe à la réunion et auxquels sont décidés du coup tous les films cinécultes de l'année. Il y a un film par mois. Il n'y a pas toutes les salles qui participent, mais nous il y a Langeais, Sainte-Maure et Lille-Bouchard qui participent. Et du coup il y a toutes les salles de la région qui participent au dispositif qui décident des films. Donc Les Chevaux de Feu a été décidé. Alors pourquoi ce film-là, je n'étais pas dans les arcanes du pouvoir de décision, mais à chaque fois en tout cas je sais ils essaient qu'il y ait un équilibre entre toutes les cinématographies, toutes les époques et entre les ressorties de films de patrimoine, et les coups de cœur des fois qu'on a envie de défendre. Des fois c'est à qui des fois parlera le plus fort, à qui défendra le mieux son film, mais en tout cas à chaque fois c'est pour faire découvrir un film un peu différent ou de patrimoine en tout cas.
D'accord, merci beaucoup. Et il y aura également du 7 au 25 février des séances 1, 2, 3 ciné dans plusieurs communes d'Indre-et-Loire et d'Indre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est 1, 2, 3 ciné ?
Alors, sur le même mécanisme que Cinéculte, sauf que là, on est sur un dispositif jeune public. Donc, pareil, tous les mois, il y a un film jeune public, plutôt des films à réessayer, en fait, de distributeurs qui promeut le cinéma jeune public. Pendant les vacances d'hiver, il y a un événement du coup autour de ces cinémas jeunes publics qui s'appelle le festival 1, 2, 3 ciné. Donc c'est 1, 2, 3 ciné plus pendant les vacances d'hiver. Et là il y a une programmation faite avec plusieurs médiateurs, médiatrices de cinéma ou de programmateurs, programmatrices, et avec des films à partir de 2-3 ans jusqu'à 7-8 ans, et avec des propositions singulières et qui sont vraiment chouettes. Enfin, on va passer pour les tout petits, ça s'appelle les toutes petites créatures, donc c'est des studios Hardman qu'on fait ces gros mythes, et du coup c'est des petites créatures en pâte à modeler qui leur arrivent plein d'aventures, et c'est super mignon, super rigolo. Et puis on aura la chance d'avoir le réalisateur d'un court-métrage qui s'appelle La Petite Boîte, d'un programme de court-métrage qui s'appelle La Grande Révasion. En fait, La Grande Révasion qu'on passe, dans ce programme-là de court-métrage, il y a La Petite Boîte d'Éric Monchaud. Et Éric Monchaud sera là. Ça va être super chouette, parce qu'Éric Monchaud, c'est un réalisateur de cinéma d'animation qu'on a connu il y a plusieurs années, parce qu'il avait fait un film qui s'appelle La Petite Casserole d'Anatole, qui était super mignon, adapté d'un livre. Et du coup, on est ravis de pouvoir l'avoir. Parce que le film a été réalisé en région grâce à Cyclique. Donc ça va être des chouettes moments, mais je pense aussi à un super film qui s'appelle L'Ours et l'Oiseau aussi, qui est très poétique, très loufoque. C'est l'histoire d'amitié entre un ours et un oiseau, et il va leur arriver évidemment plein d'aventures. Et puis on repasse un film de patrimoine qui s'appelle James et la pêche géante d'Henri Selick qui date des années 90. Donc pareil, c'est aussi montrer pas que des films d'actualité, mais aussi montrer nous des films un peu maintenant de notre enfance et des vu qu'ils sont ressortis de pouvoir les montrer aux jeunes publics.
Merci beaucoup. Alors ensuite, du 7 au 20 février, se dérouleront les séances Cinéflex. Alors dans la même dynamique, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est Cinéflex ?
Bien sûr. Pareil, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'ACC. Encore une fois, l'ACC, c'est pour nous, et c'est très important. Ça permet de mettre en place des choses qu'on ne pourrait pas faire individuellement. Et Cinéflex, c'est un dispositif très récent qui a été mis en place par les médiateurs, médiatrices, pareil, de l'ACC, qui travaillent dans les salles de cinéma de la région centre. Et c'est un dispositif plutôt en direction des 15-25 ans, ce public qu'on a du mal un peu à capter. Et avec des thématiques. Le Cinéflex, c'est à chaque vacances scolaires, donc à peu près tous les deux mois. Donc là, ça va être la troisième séance de l'année. C'est vraiment très très récent, hein, ce dispositif. Et là, ça va être la thématique du sport. Donc il va y avoir Aaron Kuo et l'autre c'est moi, Tonya. Donc il y a toujours dans certaines salles une double programmation et dans d'autres salles juste un film, mais toujours accompagné. Et là il y aura soit des associations sportives qui vont faire des démonstrations, notamment à Ali Bouchard, une association de full contact là qui va venir. Et puis sinon il y a des jeux qui sont imaginés par Marie et Antoine, notre médiateur, et Hugo aussi à Busancé, notre médiateur, qui va pour encore une fois accompagner le film et essayer que ça soit un peu plus vivant que juste une simple projection.
Merci beaucoup. On continue sur une séance qui aura lieu demain à 20h30 à la salle Jean Savoie de Noître. C'est le ciné-débat sur le film La théorie du boxeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette séance va se dérouler ?
C'est une séance gratuite qui est prise en charge par un partenaire local, le syndicat des Rivières. C'est une séance qui a lieu à peu près tous les ans, mais c'est eux qui choisissent le film. Et La théorie du boxeur, c'est un film, un documentaire sur l'agriculture, pas en général, mais sur comment on va s'alimenter aussi s'alimenter demain et la plus-value de défendre aussi nos territoires. Et à Noître, c'est juste à côté, pour ceux qui connaissent pas la salle de Noître, c'est une salle un peu atypique parce que c'est dans un ancien bâtiment militaire. Cette salle de cinéma, c'est sur notre circuit itinérant, on apporte le projecteur là-bas et c'est juste à côté du collège. C'est une salle qui appartient aussi au collège de Noître, qui est un tout petit collège d'Indre-et-Loire. C'est une petite salle très intimiste et demain il y aura cette projection qui est prise en charge par ce syndicat et ensuite un débat, un échange plutôt d'ailleurs, autour du film avec plein d'intervenants qui viendront parler des sujets qu'on voit dans le film.
Merci beaucoup. Il y aura également une séance spéciale à Noître le 20 février sur une série qui s'appelle La Famille Rose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette série ?
Il y a quelques mois, il y a une bénévole de Noître en fait qui m'a dit est-ce que ça serait possible de diffuser les trois premiers épisodes de cette série, puisque la série a été tournée à Noître. Okay. Donc il y a des gens, j'imagine des figurants qui doivent être de Noître. Donc ça sera on a mis un tarif unique à 4 euros, pour les frais inhérents à la séance, mais on passera les trois premiers épisodes. Alors je n'ai pas vu la série, mais je sais qu'il y a des scènes qui peuvent un peu choquées, donc c'est pas pour un public familial, mais et puis si jamais ça fonctionne, on essaiera de passer les trois prochains épisodes de la série, mais c'est la première fois qu'on fait ça. On a eu l'autorisation du producteur de la série pour le faire, donc on verra si les gens viennent se voir ou si peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu aussi, mais là c'est sur un écran de cinéma, donc c'est un test.
Merci beaucoup. Et pour finir sur les événements du mois de février, il y aura au cinéma Les Récollets le 25 février, un cinéfilou. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bah, un peu sous la même aspect que 1, 2, 3 ciné. En fait, les Récollets, c'est une salle qui n'est pas dans la région centre. Donc, en fait, ils ont on a mis en place un autre dispositif. Mais au final, ça revient un peu au même que c'est le tarif unique. Et par contre, aux Récollets, pour le 18 février, on participe à un événement national qui s'appelle les coups de cœur art et essai jeunes publics. Et donc là, je ne vais pas vous dire le titre du film parce que c'est une surprise et les gens découvriront le film quand ils viendront voir, quand ils iront à la séance. Il y aura un petit goûter et une animation derrière, mais là on ne dévoile rien de la séance, c'est juste te dire que c'est à partir de 3 ans le film qu'on va proposer, mais sinon les gens ne vont rien savoir sur le film.
Et est-ce que le cinéma Les Récollets a une place spéciale dans vos programmations et vos événements?
C'est une salle de notre réseau, une salle très importante. Parce que d'ailleurs, on va fêter les 30 ans cette année de la salle, 96. Et donc, c'est une salle en termes de fréquentation qui est très importante. Parce que avec l'Angers, c'est les deux salles qui fonctionnent le mieux. On est très soutenu par la municipalité. En fait, on ne pourrait pas faire autant de séances et être autant présent dans les communes si on n'était pas soutenu aussi par les municipalités. Donc, que ce soit Angers et Château, en l'occurrence, là, ils aiment le cinéma et ils savent, ils nous soutiennent aussi financièrement pour ça. Donc, non, Château du Loir, on a un gros festival jeune public aussi aux vacances de la Toussaint qui fonctionne très bien grâce au travail de Marie, notamment, et puis aux acteurs locaux. J'adore aller à Château du Loir.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des partenaires peut-être que vous souhaitez remercier?
C'est tout à la fois les financeurs qui nous permettent d'exister, donc que ça soit la région, le département, le CNC, parce qu'on est classé ARSC dans plusieurs de nos salles, et puis aussi toutes les associations de bénévoles locales qui permettent avec notre appui de faire fonctionner les salles. Et je pense il y a une asso qui a fêté ses 15 ans l'année dernière, c'est l'Angers Clap à l'Angers qui est très importante, le foyer des jeunes à Sainte-Maure, il y a une association aussi à l'île Bouchard. Et sans ces bénévoles-là qui des fois font des projections, font l'accueil et la billetterie, je demanderais peut-être plus de choses du coup aux projectionnistes. Et grâce à eux, à ces bénévoles-là, ça permet à la fois qu'ils participent à l'accueil, mais aussi qu'ils nous soutiennent sur le plan local pour distribuer les programmes qu'on édite à Cinéoff. Enfin, c'est une synergie en fait entre plusieurs acteurs, la municipalité, les acteurs publics, l'association et nous. Et sans cette tripartite, ces trois acteurs-là, y aurait un truc qui n'irait pas dans ce schéma. Ouais.
D'accord, merci beaucoup. Alors, par simple curiosité, est-ce qu'il y a des films qui cartonnent en milieu rural et qui boudent un peu les villes ou inversement?
Il y a quelques années, il y a les Baudins, par exemple, qui puis chez nous, c'est vraiment une institution. Et je sais que chez nous, et je crois qu'en ville aussi, il a bien marché, mais Le Champ des Forêts, ça a cartonné, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Vraiment, ça a vraiment très, très bien fonctionné. Et généralement, on dit que c'est les comédies qui marchent un peu moins en ville qu'en milieu rural. Mais pour l'instant, en tout cas, le mois de janvier est pas mal, donc pourvu que ça dure.
Et est-ce que vous proposez aussi des films en version originale?
Pas tous les films, mais là par exemple le Match du Kremlin qu'on va passer bientôt, on le passe en VO et en VF, des fois même sur des blockbusters. Là on m'a demandé, puis je l'avais pas passé, mais en VO, mais on nous a même demandé Avatar en VO. Non, on a un public qui aime bien la VO, donc ça fait plaisir. Et puis on passe régulièrement les films à réessayer. Là on va passer le Retour du Projectionniste, un film qui vient d'Azerbaïdjan. Du coup il n'y a pas de VF, il n'y a que de la VO.
Merci beaucoup. Merci. Et est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer à nos auditeurs?
Allez dans les salles de cinéma, peu importe lesquelles en fait, mais allez dans les salles, faites vivre, parce que s'il y a encore des films qui peuvent nous arriver, en fait, c'est parce qu'il y a des salles de cinéma. Sur chaque billet de cinéma est reversé un certain pourcentage dans la création des films. C'est assez unique dans le monde. Et j'en profite pour, si vous avez le temps, si vous prenez 15 minutes pour aller voir la vidéo que le Centre National du Cinéma a fait pour ses 80 ans, qui vient de sortir avec la voix d'Anaïs Jaoui, où c'est magnifique et qui voilà, nous dit clairement, voilà, préservons ce système-là, cet écosystème-là unique dans le monde, et rappelons-nous que voilà, c'est important de le préserver.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez... tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, bah, est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux peut-être ?
Ouais, on est sur, bah, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu sur TikTok, mais on va pas se mentir, on n'est pas beaucoup. et on a quand même une page, et sur YouTube.
Ouais. Okay.
Et on a un site internet.
Okay.
Merci beaucoup Solène pour ta participation. Juste avant de se quitter, on va écouter le deuxième podcast de la série audio sur le festival de science-fiction des Mycéliades. Je rappelle donc que ces podcasts ont été réalisés par les élèves du collège Beaulieu, aidés par Inès, Margot, Nour, Tifa, Gaël et Mathis, tous étudiants en M2 à l'EPJT. On écoute tout de suite Santé mentale, l'IA, peut-elle se substituer au psychologue ?
Bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux jouer le rôle de mon psy ? Je te raconte mes problèmes et tu fais le psy.
Je suis là pour t'écouter et te soutenir. Et je ferai de mon mieux pour t'accompagner. N'hésite pas à me parler de ce que tu ressens. Et on prendra le temps qu'il faut pour avancer ensemble.
Une conversation fluide, rassurante, presque empathique. Et pourtant, ce que vous venez d'entendre n'était pas un psychologue, c'était une intelligence artificielle. Une question qui inquiète autant qu'elle fascine, les psychologues pourraient-ils un jour être entièrement remplacés par des intelligences artificielles ? Nous, les élèves du collège Beaulieu, nous la sommes posée dans ce podcast. Pour y répondre, nous avons rencontré la psychologue Léa Raymond.
L'IA peut pas forcément résoudre un problème psychologique dans le sens où ça reste qu'une intelligence artificielle, mais par contre oui, du coup elle donne cette impression d'être entendue, mais ça, elle n'a pas toutes les données pour pouvoir être vraiment là pour la personne, donner des outils. Ça donne plutôt un sentiment d'écoute qu'un réel travail de thérapie. Je dirais qu'elle ne peut pas forcément me remplacer ou faire mon travail. Après, elle peut apporter une aide à la personne. Mais sur le long terme, ça ne va pas régler tout. Et puis, ça ne va pas aider pour toutes les problématiques. Ça va surtout aider sur des petits questionnements, mais sur des réelles problématiques, que ce soit pour des enfants ou même des adolescents ou des adultes. On va arriver à une consultation. Et d'ailleurs, je crois que l'IA propose d'aller vers des professionnels quand ça devient un peu trop lourd.
D'un point de vue technique aussi, il n'est pas encore possible d'entraîner de l'IA pour arriver à l'état de super-intelligence, une intelligence de loin supérieure à celle des humains les plus brillants. Pour savoir ce que l'IA peut et ne peut pas faire, nous avons interrogé l'expert en intelligence artificielle, Sylvain Dorschner.
L'IA ne fait pas de diagnostic. Or, en psychologie, c'est quand même quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est que, en réalité, comme l'IA n'a absolument aucun sentiment, elle limite le sentiment, elle limite le côté passionnel, de façon très bienveillante. Elle fait semblant de s'intéresser au problème puisqu'elle n'a pas d'émotion, donc c'est uniquement de la statistique. Eh bien, en réalité, il ne peut pas se passer aussi facilement que ça se passe dans la vraie vie avec un psychologue ou une psychologue, un transfert et un contre-transfert, par exemple, qui sont quand même des bases assez importantes de la relation avec son soignant. Ensuite, il n'y a pas de médiation humaine, parce qu'en réalité, dans une relation humaine, il n'y a pas que l'échange verbal. Il y a le non-verbal, il y a les neurones miroirs, il y a l'empathie du soignant. Il y a la construction et l'adaptation des méthodologies au fur et à mesure de la conversation dans la mémoire persistante, donc qui est beaucoup plus faible en IA que chez l'humain.
Mais les utilisateurs, eux, que pensent-ils vraiment de l'utilisation de l'IA pour résoudre leurs problèmes psychiques ?
J'attends de savoir si ça fonctionne ou pas, tu vois, je suis prudente. De toute façon, tu sais, je pense que c'est l'avenir, hein. On n'aura pas trop le choix.
Je préfère parler à soit des amis, soit à des gens vivants, plutôt qu'à une IA pour tout ce qui est problème médical ou mental.
L'IA ne peut pas remplacer tout en fait, sinon à quoi ça sert ?
Je pense que c'est une bonne idée quand on n'a personne à qui parler vraiment. Après, si on a quelqu'un, je pense que c'est mieux de préférer l'humain que l'IA.
Dans le film Matrix, on peut voir que les machines vont dépasser les humains qui vont devenir des esclaves. Les machines vont les exploiter, on assiste à une inversion des rôles. Dans la vraie vie, les IA progressent vite, mais pas assez pour remplacer l'humain. Elles pourront aider, accompagner, analyser, mais ressentir, comprendre vraiment et créer un lien, ça, aucune machine ne peut le faire. L'IA peut assister la psychologie, elle ne peut pas remplacer l'humain. Merci d'être avec nous pour explorer les futurs possibles, humains et parfois moins humains. Prenez soin de vous et surtout de votre humanité. Ce podcast a été produit par Nathan, Shingun, Sana, Firdaus et Ethan du Collège Beaulieu.
Et merci beaucoup, cette émission est à retrouver demain midi sur nos ondes, mais également en podcast sur radiocampustour.com. On se laisse sur une toute dernière touche de musique avec Minuit de Maïro Hôpital et Nils Schack sur le 99.5 FM.
Bellec aux faux amis car ils viendront de tous les côtés. Quand le bif tombera de tous les côtés, je donne mon amour de tous les côtés. Si t'es vrai, renvoie l'ascenseur. Dieu son job c'est de nous épauler. Mon job c'est de faire qu'on s'en sorte. L'amour d'une mère inégalé, l'amour d'un père inégalé. Il me faut des frères qui assurent, qui s'occupent des tiens si t'es pas là. M-A-I-R inégalable, ton pote qui snob qui fait le cas. Entre les valeurs d'ici et celles de chez moi, y'a un petit décalage. Découper c'est ce que je fais dans la vie. Ce matin je voulais sortir, ils auraient pu mettre la pluie pendant la nuit. Je dois récolter le fric et le fruit de mon art. Hein, je dois mieux écouter le bruit de mon âme. Ouais, 1, 2, 1.